vivant et vrai. Et merci par l'œuvre de ton esprit. Tu continues à nous parler aujourd'hui lorsque nous ouvrons ta parole, lorsque nous méditons ta parole, lorsque nous proclamons ta parole. Sois avec nous, donne-nous de réfléchir comme toi tu réfléchis, selon ta volonté. Et donne-nous donc de comprendre davantage ton amour pour nous et à quel point cela transforme notre compréhension de qui nous sommes et ce que nous faisons. Que tu sois glorifié, nous te prions, Seigneur. Amen. Amen. Alors, Malachie, chapitre 1, et nous allons lire les 5 premiers versets. Sentence, parole du Seigneur à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous aime, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi nous aimes-tu ? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob ? Déclaration du Seigneur. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai fait de ces montagnes un lieu dévasté. J'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. Si Édom dit, nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi parle le Seigneur des armées. Qu'ils bâtissent, je raserai. On les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel le Seigneur est furieux pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz vous-même, le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. » Alors, verset 2, « Je vous aime. » Trois mots, bien entendu, qui évoquent encore aujourd'hui beaucoup d'émotions, beaucoup d'anticipation peut-être pour d'autres, ou beaucoup d'assurance pour d'autres. Ces mots parlent, bien entendu, d'une intimité, des sentiments pour quelqu'un qui provoque normalement un engagement envers cette personne. Nous avons dans notre église trois mariages qui approchent pour des personnes de cette église. C'est le fruit de cet amour. Mais c'est parfois pas facile de dire que je vous aime. Si je me souviens bien, je suis allé sur YouTube hier pour vérifier ceci, le prince Charles, maintenant le roi Charles, Charles III, pour les Britanniques, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour nous les Belges, lorsqu'un intervieweur lui a demandé si lui et sa première femme, Diana, lors de leur fiançailles, hein, s'ils étaient amoureux, le prince Charles de l'époque a répondu « Oui, quoi que signifie amoureux ?» Depuis lors, c'était très mal vu quand il a dit ça à cette époque. Depuis lors, il a appris à parler plus ouvertement de ses sentiments. Peut-être vous l'avez remarqué si vous avez entendu son premier discours en tant que roi. Il parlait de sa chère épouse Camilla et de son amour d'ailleurs pour son fils Harry. C'était touchant. Mais c'est vrai que parfois, on peut, à juste titre, poser la question « Qu'est-ce que « je vous aime » signifie ?» Force est de constater que plus d'un mariage sur deux, ici en Belgique, aujourd'hui, termine par le divorce. Le divorce est connu, même au sein de notre assemblée, chers amis. Est-ce aussi évident que ça, l'amour que nous proclamons avoir. Ça nous mène directement donc à Malachie. Malachie, c'est le nom d'un prophète. Son nom signifie « mon messager », le messager donc du Seigneur. À qui est-ce que Malachie annonce donc son message? Verset 1, il parle de la sentence ou le verdict ou l'oracle donc que le Seigneur donne à son peuple. C'est à Israël, nous dit le verset 1. Israël, le peuple de Dieu. Mais c'est à Israël, lors d'une période assez tiède, si nous pouvons le dire comme ça, pour le peuple de Dieu. Quand la gloire du passé d'Israël et un souvenir lointain. Là où le royaume d'Israël, sous les règnes peut-être de David, de Salomon, était resplendissant avec Jérusalem, visité même par la reine de Sheba. Bah, toute cette époque est loin derrière elle. Depuis tout cela, il y a eu l'exil du peuple de Dieu à Babylone. Ensuite, oui, il y a eu un retour d'exil vers la terre promise. Mais ce retour qui a déjà eu lieu, rendu possible par la reconstruction des murs sous le travail de Néhémie, peut-être vous connaissez cela, ou sous les réformes bibliques de la part d'Esdras, ce retour n'était pas à la hauteur des attentes du peuple. Bien que le temple fût reconstruit, les nations ne sont pas venues pour rechercher la présence du Seigneur, comme disait le prophète Zacharie. Et la gloire de Dieu n'était pas aussi brillante que prophétisait Agée. Loin d'être le centre important qui attirait les autres nations. Non, Jérusalem était un coin un peu perdu de l'Empire perse. La bénédiction et la richesse qui devaient doter la ville de Jérusalem n'étaient qu'un souvenir de ce passé lointain. Et au-dessus de tout, au lieu d'avoir un retour sincère au Seigneur, à sa parole, pour la plupart, le peuple n'avait rien qu'un dévouement mitigé, sans conviction. À plusieurs reprises, lorsque nous lisons la suite, on va maintenant passer plusieurs semaines à étudier ensemble Malachie, et nous allons voir la corruption qu'il y avait au sein de ce peuple, l'avarice, l'exploitation des démunis, l'infidélité. Le leadership était aussi partagé dans ses responsabilités. Les prêtres eux-mêmes semblaient ne plus croire que leur Dieu valait la peine d'adorer à 100%. Donc il y a un certain cynisme parmi le peuple de Dieu à l'époque où Malachie écrit, une certaine même fatigue, je dirais, par rapport aux exigences de Dieu dans sa parole envers son peuple. Bien que formellement ce peuple s'appelait encore croyant israélite, le cœur de ce peuple s'est détourné de Dieu pour chercher le bonheur ailleurs. Si vous voulez, leur attitude, c'était un peu comme s'ils disaient, bah, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Si l'Éternel ne nous a pas rendus plus grands que les autres nations, autant vivre alors comme elles et se fier aussi à leur Dieu, aussi bien que le nôtre. Ce n'était pas le cas pour tous ceux en Israël. Le chapitre 3, plus tard, à la fin du livre, souligne que certains parmi ce peuple continuaient à craindre Dieu. Mais Malachie donne son oracle, sa proclamation, à un moment donc assez bas dans l'histoire du peuple de Dieu. Le peuple doutait de la puissance de Dieu, et oui, donc par conséquent aussi l'amour de Dieu. À un point que même lorsque Dieu déclare au verset 2 « Je vous aime », un tel amour est tout de suite contesté, vous voyez cela. Que dit Israël envers le Seigneur? Mais vous dites, en quoi nous aimes-tu? C'est comme un adolescent, en quelque sorte, qui a toujours été doté dans tout il avait besoin. Et puis, il est fâché avec ses parents, et ses parents lui disent, tu sais qu'on t'aime? Et l'ado dit, mais en quoi est-ce que tu m'aimes? Bah, si seulement mon grand, t'avais compris à quel point nous t'avons aimé jusque-là. Je ne parle pas, bien entendu, de mes ados, je parle des ados en général. Alors, cette magnifique déclaration que nous avons, affirmation de la part du Seigneur auprès de son peuple, « Je vous aime » est contestée par le peuple. Le peuple s'est endurci à un point où il remet directement ce que Dieu dit en question. Ça ne fait pas bon signe lorsqu'on réagit de la sorte. Ni à leur époque, ni à notre époque. Tu dis, c'est vrai? Le Seigneur dit vraiment cela? Bon, j'y crois pas. Hein. Tout au long de cette prophétie, cette même contestation, si vous voulez, va avoir lieu avec une série de disputes entre Dieu et son peuple. Et donc, la première contestation, remise en question de leur part, c'est à propos de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a toujours été eu le fondement pour la composition du peuple de Dieu. Je vous cite là maintenant Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 7. Que dit le Seigneur par rapport à son peuple, qu'il est sur le point de faire entrer dans la terre promise? C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libéré de la maison des esclaves et de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Si vous êtes le peuple de Dieu sorti d'Égypte pour entrer dans la terre promise, c'est parce que le Seigneur vous aime. Mais une telle réalité est obscurcie par des circonstances peu prometteuses pour le peuple de Dieu de l'époque. Oui, ils pouvaient affirmer l'amour de Dieu par leur confession formelle, par leur liturgie et leur chant d'assemblée. Mais qu'en est-il réellement, disait-il, de son amour? Nous ne le ressentons plus. Voilà donc le doute du peuple d'Israël. Et donc la question se pose, avant d'aller plus loin, qu'en est-il de son peuple aujourd'hui? Ne nous arrive-t-il pas de temps à autre, en tant qu'Église de Jésus-Christ, membre donc du peuple de Dieu, à douter de son amour? Peut-être d'abord sur le plan collectif, ensemble. Nous vivons à une époque où prendre au sérieux les vœux de servir Dieu, comme l'exprimait la reine Élisabeth il y a 70 ans, semble être un peu ridicule pour la plupart des gens. Surtout si ce Dieu donne des exigences à suivre. Et ce Dieu n'est pas la création de notre propre imagination, mais plutôt le créateur envers sa création. Ça, aujourd'hui, on rejette pour la plupart. Au lieu de susciter le respect et l'admiration de la société, suivant le fait de s'afficher chrétien aujourd'hui, de prendre la parole de Dieu au sérieux aujourd'hui, à Bruxelles, suscite de l'opposition, du ridicule, de la moquerie par la plupart de nos concitoyens. Notre société n'a aucun scrupule à prendre le nom de Dieu en vain. Pourquoi? Car ils ignorent totalement que ce nom est grand. C'est triste, peut-être, de dire cela, mais c'est vrai. Nos universités libres interdisent toute démarche visant à promouvoir la foi. Et pourtant, Jésus, il disait, n'est-ce pas, qu'il allait bâtir son Église? Parfois, voyez-vous, nous doutons de cela. Car d'un point de vue externe, ce n'est pas super impressionnant, le peuple de Dieu, aujourd'hui. Le royaume de Dieu ne sent pas avancer, parfois comme Dieu avait proclamé, avec Jésus avait dit. Nous voici, après tout, dans le réfectoire d'une école, avec du mal à trouver un bâtiment. C'était ça, sa promesse, pour son règne, pour son Église. Nous avons trop d'églises, ici en Belgique, dans notre association d'églises d'ailleurs, qui ne tournent pas bien, qui cherchent des pasteurs. Mais il y a une pénurie de pasteurs dans nos églises. En partie parce que les églises elles-mêmes ne sont plus en mesure d'encourager les jeunes à devenir pasteurs. On n'estime même pas que c'est important d'avoir des pasteurs. Donc voilà, sur le plan collectif, en tant qu'Église, peut-être nous aussi, nous pouvons douter de l'amour de Dieu. Mais bien sûr, il se peut que ce doute s'installe là aussi sur le plan individuel. Divorce, dispute, chômage, facture de gaz et électricité qui explose. Et Jésus nous avait promis la vie en abondance. J'ai entendu parler cette semaine d'une connaissance chrétienne qui est retombée dans l'alcoolisme. Une autre connaissance qui a démissionné du ministère chrétien, car il y avait trop de critiques à son sujet. C'est lourd de porter ce genre de choses. Et cela nous fait parfois douter aussi de l'amour de Dieu. Verset 2, vous dites, en quoi nous aimes-tu? Mais Dieu, tout comme un parent envers un adolescent ingrat, use de patience envers son peuple. Et donc, il interagit avec le peuple de Dieu afin de l'aider à comprendre sa position privilégiée. Car il y a, notre deuxième point, une distinction entre le peuple de Dieu et ceux qui ne font pas partie de son peuple. Une distinction donc manifestée. Nous parlons ici, dans les versets 2 à 4 de notre texte, de Jacob et Ésaü, d'Israël et Édom. Dieu rappelle à son peuple Israël la distinction nette qu'il y avait entre Ésaü et Jacob. Jacob, fils d'Isaac, vers la fin de sa vie, est appelé Israël. Ésaü, le frère aîné de Jacob, est celui qui donne suite au peuple d'Édom, une fois qu'Ésaü quitte Canaan, quitte son frère. Oui, il y avait deux frères, mais voyons, dit Malachie, la différence entre ces deux frères. L'un, le Seigneur a aimé. L'autre, il a détesté. Car oui, nous avons eu l'occasion, si vous étiez les nôtres, il y a à peu près un an, lorsque nous avons poursuivi les récits de la Genèse, là où il y avait Jacob et Ésaü, Dieu a fait un choix entre les deux garçons, que la lignée d'héritage, pour la bénédiction que Dieu avait promise d'abord à Abraham et ensuite à Isaac, tombera pas sur l'aîné, Ésaü, mais sur le plus jeune, Jacob. Sur base du mérite de Jacob, Jacob c'était un meilleur fils? Non, loin de là. Jacob était un jeune homme, intrigant, manipulateur. Sur quelle base alors est-ce que Dieu choisit Jacob? Sur base, nous dit ce texte, de l'amour de Dieu. Immérité pour lui, Jacob, et donc pour son peuple, qui découle de Jacob, Israël. Cet amour-là n'est pas accordé à Ésaü. Sa descendance, en tant que peuple, ne faisait pas partie du peuple élu. Dans ce sens, le Seigneur l'a détesté. Il faut faire attention avec ce mot, parce que ce n'est pas une haine comme une animosité personnelle, mais c'est plutôt le rejet du fait qu'il n'a pas été choisi. Plus tard, dans Deutéronome, chapitre 23, si vous prenez des notes, le Seigneur pourvoit pour Édom. Le Seigneur interdit le mépris d'un Édomite, car il est ton frère, il dit aux Israélites. Donc, il y a encore de l'affection dans un certain sens pour Édom, pour Ésaü. Mais si il a aimé Jacob, c'est afin de démontrer que Jacob, s'il est bénéficiaire des promesses de Dieu, c'est par la grâce seule. Si nous sommes, en tant que peuple de Dieu, bénéficiaires du peuple des promesses de Dieu, c'est par la grâce seule. Alors maintenant, il faut aussi souligner que lorsque Édom, la nation donc des hommes qui descend des Ahus devient une nation, cette nation s'oppose au peuple de Dieu. Ils essayent d'empêcher Israël de posséder le pays Dieu leur a donné. Lors de l'exil, d'ailleurs, le prophète Abdias nous le dit, les Édomites ont aidé les Babyloniens à attraper des Israélites qui fouillaient Jérusalem. Les Édomites, donc, pour les Israélites, sont devenus des ennemis du peuple de Dieu. Et Dieu promet, vous voyez ici par conséquent, la destruction, verset 2, « J'ai fait de ces montagnes un lieu dévasté. J'ai livré son patrimoine aux chacals du désert. » Cela s'est produit peu après ces oracles, d'après la compréhension de la plupart des commentateurs. Et verset 4, même s'il y a cette description, si Édom dit « Nous avons été détruits, mais nous rebâtirons les ruines, ainsi par le Seigneur des armées, qu'ils bâtissent, je raserai. On les appellera territoire de la méchanceté, peuple contre lequel le Seigneur est furieux pour toujours. » Donc il y a une distinction manifestée, fait partie du peuple de Dieu. Bien que les propres circonstances en Israël n'ont pas été très prometteuses au moment où Malachie écrit, c'est de bénéficier des promesses de bénédiction, quoi qu'il arrive. C'est d'être rassuré que Dieu est à la hauteur de ses promesses, qu'il fera en sorte que son peuple reste debout malgré tout, que leurs ennemis seront vaincus, que sa justice tombera sur leurs ennemis. Alors, sur quelle base? Sur base de la bonne performance de son peuple d'Israël? Le dossier n'avait rien que des TB ou des R dans le bilan de fin d'année, des 18 sur 20? Non. Sur base de son amour. Je vous aime. Il leur dit en effet, regardez, l'amour de Dieu fonctionne, ainsi vous bénéficiez, vous, des bénédictions de son amour fondées simplement sur son choix d'aimer. Et cet amour est efficace. Il ne permettra pas, le Seigneur, que vous disparaissiez. Vous étiez en exil, certes, mais vous en êtes revenus. Vous avez rebâti le temple. C'est un amour basé sur le choix délibéré de la part de Dieu, le choix de les aimer, d'être leur Dieu. Il ne fait pas appel à l'intensité ici de ses sentiments. Il fait appel à son alliance, son engagement de les aimer, sa décision de se choisir un peuple pour lui-même. Alors, si tout ça, c'était le cas pour Israël, qu'en est-il donc de son peuple aujourd'hui? La racine de notre doute de l'amour de Dieu, c'est de confondre la bénédiction de Dieu avec nos circonstances actuelles. Quand bien sûr, si nous faisons un topo sur notre situation actuelle, en tant qu'Église, même en tant qu'individu, sur base des circonstances actuelles, nous pouvons tous trouver des raisons pour nous décourager, pour nous détourner de Dieu. Mais quelle erreur d'analyser la chose de la sorte. Nos circonstances du moment ne sont jamais un indice fiable pour connaître l'amour de Dieu. Ce qui est fiable, c'est la connaissance que en Jésus-Christ, nous sommes ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, un peuple choisi, un peuple racheté, un peuple aimé par Dieu. Le fondement de notre confiance, notre joie, c'est que nous appartenons à Dieu, à son peuple, sur base uniquement de son amour pour nous. Nous allons, à partir de cette semaine, Adrien nous a dit, commencer l'étude du livre d'Éphésiens. Et que dit Paul au début de cette lettre? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, en lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Alors je sais que ces versets évoquent parfois quelques questionnements par rapport à la terminologie. Mais ce qui est super important à comprendre, c'est que ces vérités n'ont pas pour but de nous rendre, en tant que peuple de Dieu, orgueilleux. Ah, super, je fais partie du peuple de Dieu. Je ne dois rien faire alors. Ni de nous rendre fatalistes, mais plutôt de nous rendre reconnaissants. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De vouloir bénir donc Dieu, de savoir que nous appartenons à lui par son choix envers nous. Son amour envers nous est fiable, car cela a pour source son choix souverain de nous joindre à son peuple par la foi en Jésus-Christ. Un choix qui a sa source en rien d'autre que son amour pour nous. C'est pas parce qu'il savait que nous allions croire. Non, ce serait de mettre en avant notre intelligence, notre sensibilité spirituelle, de pouvoir croire. Ce n'est pas parce qu'il savait qu'on allait faire de grandes choses pour lui par la suite. Non, ce serait de mettre en avant nos qualités morales en tant que peuple de Dieu. Mais c'est uniquement parce que, dans son amour, il nous a choisis. La doctrine, si vous voulez, de l'élection divine est une doctrine précieuse, chers amis, car cela me rassure que l'amour de Dieu envers moi est fiable, sécurisé. Cela ne dépend pas de moi, mais de lui, et de celui qui, lorsque nous étions encore des pécheurs, est mort pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs, dit Romains chapitre 8, par celui qui nous a aimés. Vainqueurs, oui, car si à l'époque de l'ancienne alliance, donc lorsque Malachi écrit, les ennemis de Dieu étaient des personnes physiques, des nations, la perspective de la nouvelle alliance monte un cran. Révèle qu'en fin de compte, les ennemis du peuple de Dieu pour nous, aujourd'hui, se trouvent à une échelle encore plus grande. Le péché, le diable, la mort. Mais Dieu, en Christ, a vaincu le monde. Il a triomphé sur ses ennemis. Il a même vaincu la mort. Et il a fait tout cela par son œuvre à la croix. Colossiens chapitre 2, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et l'inconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a donné publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. La victoire du peuple de Dieu est garantie sur les ennemis de Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et tout comme au temps de Malachie, il y avait une première victoire proclamée au verset 3 et ensuite une victoire définitive promise au verset 4 dans l'avenir, de même avec Jésus, il a vaincu le péché, Satan et la mort déjà de par le passé. Mais cela ne sera que définitif lors de son retour. Paul disait en Romains 8 qu'il estimait que les souffrances du moment présent, toutes nos déceptions, nos difficultés, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Alors, vous doutez de l'amour de Dieu ce matin, chers amis? Arrêtez de vous fier à vos circonstances du moment. Retrouvons ce pilier solide, Jésus-Christ, et ce qu'il a fait pour toi. Nous allons chanter dans quelques instants à la fin de notre rassemblement ce matin. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à cœur humain. Il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous est atteint. Pour le péché de notre mort, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne. Aux paix profondes, il sauve les perdus. Et c'est cette victoire, avant de terminer, qui nous pousse à voir, qui pousse Malachie à proclamer, troisième chose, une célébration anticipée. Voici ce que Israël dira par rapport au Seigneur selon le verset 5. Vos yeux le verront et vous direz vous-même, le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. Au lieu donc de douter de l'amour de Dieu, le peuple proclamera dans l'avenir, célébrera la grandeur de Dieu. Jusque-là, ils sont glissés vers une vision de Dieu qui mettait Dieu sur le même pied d'égalité que nous les hommes ou que les autres dieux, peu fiables, peu présents, peu concernés par le peuple d'Israël. Mais leur dit Malachie, le jour viendra où ils le verront, le Seigneur, pour qui il est vraiment. Alors l'une des anecdotes par rapport à la reine Élisabeth, que j'aimais beaucoup, venait pas là maintenant, lors de son décès, mais plutôt cet été lors des célébrations du jubilé de la reine pour ses 70 ans sur le trône. Et l'un de ses anciens gardes du corps, un certain Richard Griffin, a donné une interview à la télé. Et il racontait ce qui s'est passé en Écosse avec la reine. Parce que souvent, lorsque le couple royal se rendait à Balmoral, là où la reine d'ailleurs est décédée, elle partait pique-niquer rien qu'avec l'un de son garde-corps sur les vastes terres du domaine de Balmoral. Ensuite, après avoir pique-niqué, ils baladaient souvent à deux, elle et de temps en temps, donc ce Richard qui a raconté cette histoire. Et en général, il n'y avait personne qui passait par là. Mais un jour, ils ont vu deux randonneurs américains s'avancer vers eux. Gardant son calme, la reine leur demande d'où ils venaient, où ils allaient, etc. Et ceux-ci lui racontent ce qu'ils ont déjà visité, ce qu'ils allaient visiter par après. Ils n'avaient évidemment pas reconnu la reine. Et vous, demande-t-il à Sa Majesté, où habitez-vous? Oh, moi j'habite à Londres. Mais j'ai une maison de vacances juste au-delà de ces collines. Et vous venez ici souvent? Lui demande-t-il. Oh, depuis que je suis gamine, répond-elle. Ça fait à peu près 80 ans. Alors vous avez sûrement rencontré la reine. Alors pas du tout démentée, celle-ci leur répond. Ah, moi je ne l'ai pas rencontrée, mais Richard ici, il la voit régulièrement. Enthousiastes, les touristes se tournent vers Richard et lui demandent « Alors comment est-elle la reine ? Racontez !» Et Richard, parce qu'il connaissait bien la reine, n'hésitait pas à répondre. Oh, « bah, elle peut être vraiment grincheuse parfois, mais en général, elle a un très bon sens de l'humour. » Et voilà qu'il pose les bras autour des épaules de Richard et se tournant vers la reine, lui passe leur appareil de photo afin qu'elle fasse une photo des trois. Aucune hésitation de la part de la reine, elle s'exécute et prend la photo. Richard fait exprès également pour prendre une photo d'eux avec la reine. Ensuite, ils sont repartis, ignorant toujours l'identité de la reine. Et elle dit à Richard, « qu'est-ce que j'aimerais bien être, une mouche sur le mur de la pièce où ils vont montrer ces photos en Amérique. Avec un peu de chance, quelqu'un leur dira qui je suis un jour. Alors oui, c'est une chouette histoire. Mais si on raconte cette histoire, ce n'est pas maintenant pour qu'on se focalise sur la reine. Mais c'est parce que ce même sentiment d'émerveillement anticipé, de célébration anticipée, qui est en vue au verset 5 pour le peuple de Dieu, qui jusque-là ignore, sous-estime la grandeur de leur Dieu. Vos yeux, verset 5, le verront. Et vous direz vous-même, le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. Oui, ce Dieu n'est pas juste un Dieu régional, mais c'est le Dieu de toute la terre qui règne. Et donc pour nous, le peuple de Dieu, aujourd'hui, en Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, est-ce possible que nous sous-estimons la grandeur de notre Dieu? Était-il pour vous ce matin plutôt un fardeau de vous rendre à cette assemblée? Cher ami, j'aimerais vous dire que vous ignorez la grandeur de Dieu, le privilège de lui appartenir, de le connaître, d'être adopté, imaginez-vous, dans sa famille, par amour, par simple amour. Il n'y a rien de plus grand. Cela, chers amis, donne le désir de participer au peuple de Dieu, de bénir notre Dieu, de célébrer notre Dieu. Est-ce que toi, tu doutes de l'amour de Dieu? Est-ce que tu sais qu'en Jésus-Christ, tu fais partie d'un peuple choisi par grâce? Vous faites partie de ce peuple. Ce jour-là, ce ne serait pas le cas que certaines personnes doutent de l'amour de Dieu. Qu'un jour, tout genou fléchira au nom de Jésus. C'est un, ce Jésus-là, qu'aujourd'hui la reine Élisabeth fléchit le genou devant son roi qu'elle avait confessé pendant sa vie. Oui, au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, je sais que nous avons déjà chanté « À toi la gloire, à Dieu soit la gloire ». Et j'étais surpris, parce que je ne sais pas pourquoi, on a enlevé le troisième strophe, mais ce n'est pas grave, je vais vous lire le troisième strophe de « À Dieu soit la gloire ». Céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme unie à Jésus, son roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui, dans sa tendresse, sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Ô, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je vous invite à prier pour terminer. Quel privilège, Seigneur, de savoir que nous sommes choisis en Jésus-Christ. Cela uniquement de par ton amour. Pardonne-nous de douter de ton amour. Pardonne-nous d'ignorer la grandeur de ce que c'est de t'appartenir, de te connaître, de faire partie de ton peuple. Quel privilège nous avons, Seigneur, d'être bénéficiaires de ces promesses. Et nous voulons être ceux donc qui célèbrent la gloire de ta grâce que tu nous as accordée en ton bien-aimé Jésus-Christ. Donne à nous en tant qu'Église, cette année-ci, de célébrer ta gloire. La gloire de ta grâce, donne-nous d'en être conscients et de prendre la joie à travailler ensemble pour que ton nom soit glorifié. Parce que nous disons avec Israël que le Seigneur est grand au-dessus du territoire d'Israël. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.